Une autre semaine riche en événements au niveau international et parmi les nombreux sujets traités par la rédaction, nous analysions notamment la situation au Brésil à quelques semaines des JMJ de Rio. Le mouvement spontané de protestation contre la vie chère qui a explosé il y a 2 semaines a pris tout le monde de court, a commencé par les politiques au pouvoir. Pourtant, les raisons de ce malaise ne sont pas si récentes et le père jésuite Bernard Lestienne, membre de la commission sur les questions sociales au sein de la conférence épiscopale brésilienne, nous en parlait.
C'est une surprise parce que le Brésil va bien, entre guillemets. On est à 6% plus ou moins de chômage. Les gens ont un pouvoir d'achat qui a beaucoup augmenté. Les petites classes moyennes prennent conscience de ses droits. Et ça, c'est sans doute un facteur important. La classe moyenne prend conscience qu'elle est forte. Il y a de la demande pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité physique, pour la sécurité sociale aussi. Les gens réclament leurs droits.
Barack Obama a retrouvé, lui, cette semaine le continent africain après plusieurs années d'absence. Son dernier séjour, c'était au Ghana en juillet 2009. Le président américain mettait donc fin à une longue absence, mais qu'il faut relativiser, comme nous le disait François Durper, un spécialiste des États-Unis.
Aujourd'hui, ce voyage, qui est effectivement un voyage un peu compensatoire d'une diplomatie qui a été très marquée par l'Asie lors du premier mandat, ce voyage compensatoire, il est sous le signe des échanges commerciaux à renouer, en particulier avec les États qui présentent un fort taux de croissance et qui disposent de classes moyennes. On pense évidemment au Sénégal, mais également à la Tanzanie.
Cette semaine, le Liban avait une fois de plus la preuve que le conflit syrien à ses portes pourrait avoir de graves conséquences sur le pays. On en parlait avec le jésuite Samir Khalil Samir, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Nous avons un conflit qui, de syrien, est devenu syro-libanais et de là est devenu régional et religieux surtout, entre chiites et sunnites. Et comme le gouvernement libanais, pour d'autres motifs, se trouve maintenant en crise et que le premier ministre a donné la démission, la situation peut dégénérer facilement.
Pendant ce temps, au Qatar, l'émir abdiquait en faveur de son fils, du jamais vu dans l'histoire récente du monde arabe. Mais ce n'était pas une surprise pour tout le monde. Ainsi, l'expert de ce riche état du Golfe, Nabil Ennasri, mauvaise santé de l'émir Ahmad, sentiment d'avoir accompli son travail, mais pas seulement.
Le Qatar a une habitude des coups d'État, une espèce de tradition. L'émir avait déposé son père en 1995, lequel avait déposé son oncle en 1972. Donc pour pouvoir un petit peu exorciser, entre guillemets, cette tradition des coups d'État, l'heure est venue peut-être de transmettre de son vivant le pouvoir à son fils pour éviter un éventuel coup de force, notamment fomenté par le Premier ministre Hamed Ben Jassim, qui est une personnalité incontournable de la nomenclature au Qatar.
Les dirigeants européens se retrouvaient à Bruxelles pour un sommet européen consacré à la question du chômage des jeunes. 5 600 000 sans emploi en Europe. Des institutions internationales, comme le Bureau international du travail, commencent à parler de génération perdue. Mais Michel Abervé, professeur d'économie sociale à l'Université Paris-Est, soulignait sur nos antennes que la crise actuelle crée surtout de la désillusion.
Aujourd'hui, on a plus une situation amorphe, très inquiétante, de jeunes qui ne semblent pas croire en grand-chose. Recréer de l'espoir, montrer qu'il y a un certain nombre de solutions, est une nécessité, mais l'espoir ne se crée pas seulement à partir de bonnes paroles, il se crée à partir de propositions concrètes, d'emplois précis qui sont proposés et qui sont des emplois adaptés réellement au niveau et à la situation de ceux qui sont le plus éloignés et les programmes ne peuvent pas être uniformes pour tous les jeunes.
Après son combat contre la peine de mort, la torture ou en faveur des droits de l'homme, l'Union européenne s'engageait cette semaine à promouvoir et protéger la liberté de religion ou de conviction. Un texte était présenté où la question du blasphème notamment est largement abordée. On l'évoquait avec Pierre Morel, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. Il dirige l'observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions.
C'est un jugement européen qui a sa légitimité et sa force, qui consiste à dire tous les appels à vouloir criminaliser ce qui est qualifié de blasphème est une menace directe pour la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression est également une liberté fondamentale, une liberté au même titre que la liberté de religion et de croyance. Donc là, le risque de conflit et de détournement est très grand. Et ce n'est pas simplement l'Union européenne, les nombreux pays, mais en particulier l'Union européenne, ont beaucoup travaillé ces dernières années pour dire que l'invocation du blasphème et la pénalisation ne mènent nulle part qu'à une restriction.
On ne peut oublier la saga Snowden, du nom de cet ex-consultant de la CIA qui a révélé le scandale PRISM. Recherché par les États-Unis, l'homme est bien décidé à rejoindre l'Équateur, à qui il a demandé l'asile politique. Sur les traces d'un autre lanceur d'alerte, déjà protégé par Quito, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Il réside depuis un an à l'ambassade d'Équateur à Londres. Mais pourquoi l'Équateur se veut terre d'asile? La question était posée à Jean-François Claverie, directeur de l'Observatoire des changements en Amérique latine à Paris.
C'est vrai que l'Équateur, de par la personnalité de Rafael Correa, le président de la République, qui est le chef d'État d'Amérique latine le plus éduqué, hein, c'est quelqu'un, un économiste très reconnu, quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis et qui est, sur les droits de l'homme, très sensibilisé à ce domaine et qui refuse que les États-Unis donnent des leçons au monde entier. Je crois qu'il y a toute une symbolique, quoi. C'est une manière de répondre à la toute-puissance des États-Unis, de les prendre à leur propre jeu des droits de l'homme.